Une bonne nouvelle d'après Matthieu, lecture suivie de l'évangile de saint Matthieu dans une traduction transposition de Vincent Paul Toccoli, salésien de Don Bosco.
L'épisode précédent nous a laissé pantois devant la naïveté, la spontanéité, l'immédiateté de la question du jeune homme. Comment faire pour avoir la vie à perpétuité? Et toute cette conséquence qu'il doit tirer devant l'exigence radicale de Jésus. Va, vends tout, donne l'argent aux pauvres, puis viens et suis-moi.
Alors Jésus prenait un exemple. Il y avait une fois un gros propriétaire terrien. Ses vignes s'étendaient à perte de vue dans toute la contrée. Son raisin était le meilleur, et le vin qu'il donnait était exporté par-delà les mers. Et voici que le temps des vendanges arrive. Le premier matin, il voulut lui-même se rendre sur la place du bourg pour embaucher les premiers vendangeurs. Il alla de l'un à l'autre, s'accordant sur le prix pour la journée, et les fit monter dans les voitures qui attendaient à la sortie du bourg. C'était 6 heures du matin. Il faisait frisquer, mais la journée qui commençait s'annonçait belle. Vers 9 heures, le maître du domaine retourne au bourg et il remarque d'autres hommes désœuvrés traîner au marché. « Si vous voulez aller dans ma vigne, il y a du travail pour vous. Je serai juste avec vous. » Ils acceptèrent, et d'une jambe alerte, ils prirent la direction du domaine. À midi, à 3 heures, même scénario. Le maître rencontre des hommes inoccupés, leur propose du travail et les embauche en leur permettant un juste salaire. Et même vers 5 heures de l'après-midi, en allant faire une course, il envoie d'autres assis à ne rien faire. Et quoique le soleil décline déjà, il leur propose de le même marché. Pourquoi restez-vous plantés là à ne rien faire? C'est que personne ne nous a embauchés. Eh bien, vous aussi, allez dans ma vigne. Et ils s'y rendirent aussitôt. Le soir venu, le premier soir des vendanges, le maître du domaine dit à son intendant « Appelle les ouvriers et paye-les, en commençant par les derniers arrivés. » Un peu étonné, ceux qui viennent pratiquement à peine d'arriver se présentent timidement à la caisse et reçoivent chacun de l'argent. Les autres défilent à leur tour, en s'imaginant déjà recevoir plus, mais ils reçoivent aussi chacun la même somme. En empochant leur salaire, ils murmurent contre le patron. « Les derniers arrivés n'ont fait qu'une heure, et toi tu les traites comme nous, qui avons porté le poids du jour et de la chaleur ?» À ces mots, le maître du domaine s'adresse à leur porte-parole. « Mon ami, je ne t'ai pas lésé, tu t'es bien mis d'accord avec moi sur le prix, hein ? Alors prends ton dû et va-t'en. Je veux donner aux derniers arrivés autant que toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mon argent ? Ou bien as-tu le mauvais œil parce que j'ai bon cœur ? » Et devant l'ébahissement des auditeurs, Jésus concluait « Chez Dieu, il n'y a ni premier ni dernier. » Vous comprenez ? Il ne calcule pas comme nous. Il faut monter à Jérusalem. Le temps en est venu. Jésus rassemble les 12 à part, et sur le sentier des collines, il leur confie. Comme vous le voyez, nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme va être livré aux chefs des prêtres et aux docteurs de la loi. Ils vont le condamner à mort, puis ils le livreront aux païens qui le bafoueront, le fouetteront et le crucifieront. Mais le troisième jour, il reviendra à la vie. Tous ceux qui le suivaient auraient bien voulu savoir ce qu'il racontait aux 12. Mais on sentait bien que c'était important et grave. Jésus entendit quelqu'un trotter à côté de lui, le dépasser un peu, se prosterner devant lui. Quand on releva la tête, Jésus reconnut la mère de Jacques et de Jean, les fils de Zébédée, naturellement flanqués des deux disciples. « Que veux-tu ? » lui demanda-t-il en essayant de la relever. Mais elle restait prosternée malgré la gêne de ses fils. « Promets-moi que mes deux fils, que voilà, siégeront l'un à ta gauche et l'autre à ta droite dans ton royaume. » Jésus secoua la tête. Mais la femme ne bougeait pas, elle attendait une réponse, la réponse. « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pourrez-vous endurer tout ce que je vais endurer ?» La mère ne put répondre. L'enthousiasme des fils la précéda. « Oui, oui !»« Oui, reprit Jésus, c'est vrai, vous aurez votre lot. » Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Ces places appartiennent à ceux à qui mon Père les réserve. Les autres 10 qui assistaient à toute la scène depuis le début s'irritèrent contre les deux frères. Jésus rassembla tout le monde. Vous savez tous comment cela se passe chez les païens. Les chefs exercent leur domination, les grands sont jaloux de leur puissance. Chez vous, il faut que ce soit différent. Celui qui veut devenir grand doit se faire votre esclave. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie en échange pour la vie des hommes. Il les laissa ruminer ce qu'il venait de leur dire. On quittait Jéricho, et la foule ne l'abandonnait toujours pas. On se bousculait, on criait son nom. Sur la grande allée de palmiers séculaires, deux aveugles habitués du lieu étaient assis là, désespérant de recevoir quoi que ce soit. Au nom de Jésus, qu'ils entendaient prononcer sur tous les tons et par tant de gens, ils se mirent à hurler, eux aussi, pour attirer son attention. Ils prenaient leur souffle en même temps, et en même temps ils appelaient « Seigneur, pitié pour nous, fils de David !» Le rythme était bon, leur poitrine solide, et ils avaient un organe plutôt entraîné. « Seigneur, pitié pour nous, fils de David !» La foule qui passait à leur hauteur les rabrouait pour les faire taire, car leur voix arrivait à couvrir les conversations. Mais eux, tout à leur espérance, et malgré les coups qui pleuvaient sur leur tête, continuaient aussi secs. « Seigneur, pitié pour nous, fils de David !» Jésus, qui était loin d'être sourd à toutes les misères, entendit très bien leur hurlement. Il s'arrêta, les appela et leur dit « Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Jésus avait toujours de drôles de questions. « Seigneur, ouvre mes yeux !» Jésus sentit une immense pitié monter en lui. Il leur toucha les yeux, et aussitôt, ils recouvrèrent la vue. Jésus reprit son chemin, et eux se mirent à le suivre en pleurant.
On a envie d'applaudir, on a envie de se dire « Bravo !» parce qu'on est content quand le bien arrive, on est content quand, quand les gens reçoivent ce qu'ils attendent parce qu'ils en ont besoin, pas du superflu. C'est pour ça que la question est toujours, marrante. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? Ils sont aveugles, il va pas leur donner des baskets. C'est voir qui veut. Mais il faut qu'ils le disent. C'est ça qui est intéressant chez Jésus. Il faut qu'ils le disent. Il faut qu'ils l'expriment. Il faut que tout le monde entende ce qu'ils veulent. Parce que ce qui est dit, est dit, est entendu. Et une fois que c'est dit, on peut pas dire que ça n'a pas été dit. Donc ils veulent voir. Ce qu'ils vont voir n'est pas très beau, c'est toute la misère autour d'eux. Enfin, ils ont voulu voir, ils le voient. C'est une espèce de justice qu'ils se réclament pour eux-mêmes. Parce que les deux épisodes précédents parlent aussi d'une justice, mais d'une justice surprenante. Rappelez-vous, l'histoire des travailleurs, ceux de la dernière heure, les ouvriers qui reçoivent autant. Qu'est-ce qu'on peut dire à ça? Ça va contre toutes les lois syndicales, contre toutes les lois sociales. C'est une injustice, d'une certaine façon. C'est-à-dire que ceux qui ont travaillé qu'une heure reçoivent autant que ceux qui ont travaillé une dizaine, une douzaine d'heures, je ne sais pas. Et on n'est pas aux 35 heures. Vous imaginez ici le courage de pouvoir dire « je fais ce que je veux de mon argent ». Ma justice, elle n'est pas comme ça égale au sens de l'uniformité. Elle est distributive. Je remets à qui je veux ce que je veux. Oui, c'est pour ça qu'il faut voir les choses du côté de Dieu. Je ne sais pas pourquoi celui qui a travaillé qu'une heure a reçu autant que celui qui a travaillé 12 heures. Mais celui qui a travaillé qu'une heure et qui a reçu autant, il a une conscience transformée. Il doit peut-être comprendre que quelque chose lui est arrivé, qu'il ne mérite pas aux yeux des hommes, mais qu'il mérite aux yeux de Dieu. Donc, il doit se comporter en quelqu'un qui doit être méritant aux yeux de Dieu. Et la seconde épisode qui nous est proposé, le second épisode, vous rendez compte, cette femme, toutes les mères sont comme ça, avec deux jumeaux qu'il faut falloir placer, et si ça marchait son truc à Jésus, vous rendez compte, s'il devenait quelqu'un d'important et qu'il y a un fils à gauche, un fils à droite, comme ça, Madame Roussin, il avait ses deux fils, un à gauche, un à droite, ce serait formidable. Alors, elle court devant, et il monte à Jérusalem, il vient d'annoncer que il doit être jeté aux mains des méchants et crucifié, et bon, il ressuscitera, il reviendra à la vie, et elle demande, et elle sait plus quoi dire, alors les deux fils, oui, on est d'accord, ben oui, vous êtes d'accord, qu'il dit justice vous sera rendue, vous aurez que ce que vous méritez, c'est-à-dire ce dont Dieu vous a senti que vous le méritez, c'est-à-dire suivre Jésus jusque dans la mort et dans la résurrection, mais quant à ce qui est, voilà, une justice que lui ne peut pas rendre, parce que ce serait injuste, cette justice-là, que de prendre l'initiative sur une demande de pouvoir, en somme, d'establishment. Eh oui, justice. Quand justice sera faite, laquelle? Celle de Dieu, celle des hommes? Difficile à comprendre, hein? Comme il disait à Saint-Pierre, tout cela n'est pas aisé.
C'était une bonne nouvelle selon Matthieu, une traduction et un commentaire de Vincent-Paul Toccoli. Daniel Chavy a prêté sa voix pour la lecture. Merci et à bientôt.